France Musique.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est samedi et la maison de la radio est sous la pluie en ce week-end de Pentecôte. Musique Matin se fabrique désormais dans les studios de France Musique. Nous avons repris le chemin de la maison de la radio. David Travailleur est à la réalisation, Antoine Giraud et Xavier Atto à la technique. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Un festival se prépare à l'Opéra de Dijon. Ça semblait presque impensable il y a encore un mois. Mais ça y est, des musiciens convergeront dans une salle de spectacle pour jouer et chanter. Dès mercredi prochain, la Capella Mediterranea de Leonardo Garcia Lercon sera sur la scène de l'Opéra de Dijon. Alors pas de public dans la salle. C'est un concert retransmis gratuitement sur le web. Et se dérouleront ainsi une trentaine de concerts des artistes en résistance. C'est ainsi que s'intitule le festival, festival que nous détaillera Laurent Joyeux, directeur de l'Opéra de Dijon, tout à l'heure à 8h40. Juste avant, vers 8h30, Marc-Olivier Dupin nous initiera au langage des oiseaux. À la Pentecôte, on parle décidément toutes les langues. Juste avant 9h, Roselyne Bachelot nous présentera l'Orfeo de Monteverdi, diffusé ce soir sur France Musique. Et dans un quart d'heure, préparez-vous à danser le catac avec Christophe Chassol. Mais avant cela, on démarre la journée avec un Nocturne de Franz Schubert.
Thank you.
Quatuor Modigliani a invité la clarinettiste Sabine Meyer, le corniste Bruno Schneider, mais aussi un basson et une contrebasse pour enregistrer cet octuor en fa majeur Deutsch 803 de Franz Schubert. On entendait à l'instant le scherzo, c'est une nouveauté parue chez Mirare. Le quatuor Modigliani aurait dû être à Bordeaux en ce week-end de l'Ascension et non de Pentecôte. Ça y est, j'ai pris un café, je suis un peu mieux réveillée pour parrainer le concours international de quatuor à cordes. Alors il faut faire son deuil, et la musique nous y aide, le cinéma aussi. Tout à l'heure à 13h, Thierry Jousse revient sur la filmographie de Michel Piccoli dans Cine Tempo. Et puis demain soir à 20h55, Arte va convoquer le souvenir et la grande carrière cinématographique de Michel Piccoli en diffusant les choses de la vie de Claude Sautet. On y entendra une chanson empreinte de mélancolie. Michel Piccoli donne la réplique au chant de Romy Schneider.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là,
Stéphane Belmondo au bugle, Jackie Terrasson au piano dans cette chanson d'Hélène, écrite par Philippe Sard. Jackie Terrasson aurait dû jouer hier soir à Coutances dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers. Le festival a été annulé, reporté, mais le festival de rediffusion se poursuit sur France Musique. Vous étiez peut-être déjà à l'écoute hier soir sur France Musique des rediffusions de Jazz sous les pommiers et ce soir, ça se poursuit à 19h. Yvan Amar donnera entendre le concert du trio de Leila Makkala avec Raphaël Imbert et Pascal Danet. Il est 8h15 et il est grand temps de retrouver Christophe Chassol. Bonjour Christophe Chassol.
Bonjour Priscille.
Ben alors, qu'est-ce que vous nous faites découvrir ce matin ?
Ah, ce matin, je vais vous faire découvrir un de mes amours très profond, c'est le danseur de Katak, Birju Maharaj. Mon Birju Maharaj, danseur de Katak, mais il est danseur, c'est un grand professeur de Katak aussi, hein. Il a fondé sa propre école, c'est un chanteur, un compositeur et aussi un tabliste. Alors il a 82 ans aujourd'hui, il est né en 1938 et il a fait donner ses premiers récitals à 7 ans, je ne sais plus comment on dit. À 13 ans, il était déjà professeur et il vient d'une illustre famille de danseurs de Katak. Alors le Katak, c'est une des 8 formes de danse en Inde. On a les plus connus, le Bharatanatyam et l'Odissi. Alors le Katak raconte des histoires vraiment. Le mot Katak veut dire, les Katakars étaient les storytellers, les raconteurs d'histoires, les bardes qui voyageaient et racontaient des histoires à la cour. Ils racontent des histoires avec deux éléments. Il y a trois éléments. Ils viennent de villes différentes. Il y a la ville de Lucknow et la ville de Benares où on se sert plutôt des expressions faciales, de lever les sourcils et les yeux. Et puis il y a le Katak qui vient de Jaipur et qui se base plutôt sur les mouvements de pieds. Alors ils se mettent des grelots aux pieds. Ces grelots, on les appelle les gungros. Et ils miment les rythmes, les percussions avec leurs pieds. Et donc les grelots grelottent. Et c'est fantastique de virtuosité, de mathématiques et de choses alignées, quoi. Mon idée, là, pour vous faire découvrir ça, c'est que, on dirait parfois des exercices, mais que c'est quand même magnifique, qu'un exercice peut être magnifique.
Rythmiquement, comment est-ce que vous analysez ça?
Ah, bah, bon, la musique indienne est assez complexe rythmiquement, mais, on va écouter Birju qui en parle pendant le concert. Alors, les protocoles de concert sont très particuliers quand même avec la musique indienne. Ils peuvent parler pendant, quoi, vraiment. Et là, Birju, il est à Carnegie Hall avec Zakir Hussain au tabla, et il explique donc, par-dessus ce motif qui est assez génial, qui est très tendu, le motif fait ça. Ré, do, la, fa, sol, la, do, ré, do, la. Et il explique comment il va mimer par la danse la démarche de trois animaux différents. On va avoir une vache, un cerf et un lion qui font tous les trois le même motif, mais placé différemment rythmiquement. Il y en a un qui va faire ta-ta-ta-ta, il y en a un qui va faire ta-ta-ta-ta, et un autre, le lion, qui va faire ta-ta-ta-ta. On écoute.
The counting in three animals. Cow, cow walking, ta ta ta. The deer, ta ta ta.
Et le lion.
And the lion behind, ta ta ta. The three speed in this tag. Mm-hmm. Ever did the punching sa? Ever did the punching sa?
Et ensuite, il va les faire vraiment avec les grelots qu'on entend là. Il va faire les mêmes rythmiques. On les entend. Tan tan tan.
C'est un conteur génial.
Ah, il est fantastique, bien joué. C'est un très bon professeur, surtout. Il a fait beaucoup de vidéos, il a fait vraiment beaucoup pour la pédagogie du katak. Alors, c'est vraiment très ancestral, le katak. C'est 400 avant Jésus-Christ, c'est très, très codifié. Mais vraiment, cette idée, j'aime l'idée que c'est des choses. J'ai l'impression de voir un jeune, c'est souvent des jeunes danseurs, et j'ai l'impression de voir un petit génie qui fait des formules mathématiques avec ses pieds, avec ses mains, avec ses sourcils et ses yeux. C'est fantastique. Et il y a un très bon exemple de katak dans un film de 58 de Satyajit Ray, un des plus grands réalisateurs indiens, Le Salon de musique. C'est sur un riche propriétaire qui donne des fêtes fastueuses et qui est ruiné par son amour de l'art. Et il y a une séquence très connue avec cette danseuse de katak qui s'appelle Roshan Kumari, qui n'a l'air de ne pas avoir d'âge. Donc, je sais pas, elle doit avoir 16 ans à l'époque, peut-être, j'en sais rien. Et cette séquence est très connue. Elle part, elle est en transe, vraiment. On va écouter. Alors, la mélodie fait, et ensuite, Roshan Kumari va faire toutes ces formules mathématiques avec les grelots et en tournant sur elle-même, en vraiment en synchro parfaite avec le rythme et la mélodie. Et elle tournoie en même temps. Din, din, tada. Din, din, tada. Voilà, c'est un court extrait, la séquence dure peut-être 10 minutes et elle part en transe, ça tournoie, et ce riche propriétaire est complètement subjugué et il perd tout. Voilà. Mais je ne sais pas si on a le temps pour un dernier extrait de Birju. Alors, il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Pariant. Vous pourrez trouver ça dans les splendeurs du katak, Birju Maharaj. De toute façon, tapez Birju Maharaj dans YouTube et on le voit danser, on voit énormément de choses. J'adore les mélodies, en fait, qui reposent sur des courts motifs, mais des courts motifs en musique indienne qui disent tout. Un bourdon, une mélodie et des exercices par-dessus, des patterns chantés, parlés, qui sont fantastiques. On écoute Pariant. Okay.
avec Christophe Chassol au piano. Merci beaucoup Christophe, à la semaine prochaine.
Merci Priscille. Ça vous donne envie d'écouter du Kazakh ?
Ah ouais, plein. Ce soir, je m'y mets.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Il ne vous reste plus que quelques heures pour visionner le documentaire de Jean-Stéphane Bron sur l'Opéra de Paris, un bijou de simplicité où l'on voit Romeo Castellucci travailler sur la mise en scène de Moïse Aaron de Schoenberg. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Castellucci travaille actuellement la mise en scène d'un Don Giovanni de Mozart dirigé par Kurensis et qui devrait être donné au Festival de Salzbourg cet été, qui est toujours maintenu aux dernières nouvelles. Affaire à suivre donc, et je referme la parenthèse. Et dans la galerie de personnages de ce documentaire sur l'Opéra de Paris, se détache particulièrement un jeune baryton basse russe, Mikhail Timoshenko, fraîchement intégré à l'Académie de l'Opéra de Paris, et il rencontre l'une de ses idoles, Brian Terfel, qui lui prodigue quelques conseils.
Dear God, you made many, many, many rich people. I realize, of course. It's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, digga 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 dum. All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Idle, deedle, idle, digga, digga, deedle, idle, dum. If I were a biddy, biddy rich, digga, digga, deedle, idle man, I'd build a big, tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, diddle-diddle-diddle-digga-digga-diddle-diddle-dum. All day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Idle, 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 dum. If I were a pity, pity rich, idle, 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 idle man, I'd see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals for her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oy, what a happy mood she's in. Screaming at the servants day and night. I have to fuck off my kasha. The most important men in town will come to phone on me. They will ask me to advise them, like a Solomon the Wise. If you please, Reptanie, pardon me, Reptanie, causing problems that would cross Sir Rabbi's eyes. Bye-bye, bye, bye-bye, bye, bye-bye. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you'll really know. I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I'd discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. This would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga- were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Idle, 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 digga, digga, idle, idle, dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Ah, si j'étais riche, chante Brian Terfel dans cet extrait d'Un violon sur le toit. La comédie musicale aurait dû être jouée ce soir dans une mise en scène de Barry Kosky au Komische Oper de Berlin. Alors croisons les doigts pour que les prochaines représentations prévues fin décembre et janvier 2021 seront maintenues. Brian Terfel, lui, est attendu à l'Opéra de Paris en septembre dans l'Élixir d'amour de Donizetti, un rôle de basse-bouffe, celui de docteur Dulcamara. 8h30 pile sur France Musique, on rejoint un homme qui est riche en idées et a plus d'une musique dans son sac, c'est Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Priscille.
Vous ne m'avez pas raconté, Marc-Olivier, quelles ont été vos activités musicales pendant cette période de confinement ?
Eh bien, j'ai écouté les chants d'oiseaux parisiens, figurez-vous. En plein Paris, sans voiture, sans pollution, la nature reprend ses droits avec une extraordinaire présence des oiseaux et de leur joyeuse polyphonie. Et évidemment, tout ça m'a fait penser à l'extraordinaire Jeannequin, qui leur rend un hommage magnifique.
Olivier, qu'est-ce qui fait que les oiseaux fascinent tant les musiciens, ce sont un peu leurs alter-ego?
Oui, cette fascination est autant littéraire que musicale et d'ailleurs très ancienne puisque dès les penseurs grecs, on a par exemple avec Aristophane les oiseaux qui sont mis en scène. À la Renaissance, la thématique des oiseaux est liée à l'éveil du printemps et à l'éveil de l'amour, donc c'est un thème évidemment très important. Et Jeannequin a cette virtuosité de faire entendre le babil musical des oiseaux dans un tissu très polyphonique, extraordinairement vivant et ingénieux. C'est-à-dire que, comme dans une forêt, on entend l'oiseau à la fois par son chant seul, mais aussi dans le jeu des réponses avec le groupe des autres oiseaux. L'oiseau est indéniablement un grand contrapuntiste par nature.
Alors Marc-Olivier, à la Renaissance, ce thème des oiseaux est-il prisé dans d'autres pays européens, par d'autres musiciens ?
Oui, alors on trouve dans la littérature élisabéthaine des exemples absolument formidables. Il y a notamment le génial rossignol de Thomas Wilkes. Alors Thomas Wilkes est un compositeur très intéressant qui était, semble-t-il, assez ivrogne parce qu'il s'est fait remercier de sa paroisse pour ivrognerie. Mais en tout cas, ça n'enlève rien à son talent de compositeur parce qu'il a écrit des choses magnifiques, notamment le rossignol qu'on entend par The King's Singers. The black bird and the thrush.
Il faut croire, Marc-Olivier, que les oiseaux ont été particulièrement volubiles et bavards pendant la Renaissance. Est-ce que depuis, ils ont ainsi inspiré les musiciens?
Oui, alors à toutes les époques, finalement, les compositeurs ont été fascinés, passionnés par les oiseaux, par le langage des oiseaux. Et ce qui est formidable, c'est de constater qu'au fond, chaque époque s'empare de l'oiseau et l'intègre dans le langage du moment. Rameau, par exemple, recycle le thème du coucou avec ses harmonies, ses mélodies et les ornements. Et ça, c'est formidable comment l'ornement arrive à rendre compte de ce que l'oiseau fait, c'est-à-dire au fond des tas de petites notes qui ne sont pas dans le tempo, qui ne sont pas dans le temps de la musique, mais qui sont rajoutées et qui donnent ce côté au fond très libre et très très volubile et improvisateur de l'oiseau. Écoutons un oiseau de Rameau qui n'est pas vocal, qui est instrumental. C'est le Rappel des oiseaux de Rameau par Sokolov.
Merci beaucoup, Marc-Olivier. À la semaine prochaine. Je crois que cette fois, vous venez en compagnie d'autres oiseaux rares, cette fois du XXe siècle.
Qui ne manquent pas d'exemples sublimes à nous faire entendre.
À la semaine prochaine, Marc-Olivier. Merci à vous.
À la semaine prochaine.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Nos amis de France Inter, Charline Vonnenecker et Alex Vizorek, ont prêté leur voix à un album de la maîtrise de Radio France. Alors dites-moi, Charline et Alex, aimez-vous Bach?
Mais t'étais au courant?
Ben, devine.
Thank you.
Un arrangement façon Swingle Singers, signé Julien Joubert pour la maîtrise de Radio France, dirigé par Sophie Janin. Ils ont enregistré ensemble ce CD qui est paru pendant le confinement et intitulé « Nous n'irons pas à l'opéra » et « Aimez-vous Bach », donc un double titre. C'est la recommandation d'écoute musicale en famille aujourd'hui. Les concerts de la maîtrise de Radio France n'ont pas eu lieu depuis 2 mois, comme tant d'autres manifestations musicales. La reprise de la vie est encore timide sur scène, empêchée par les événements. Je pense notamment aux rencontres de Vézelay, prévues fin août, magnifique rendez-vous de musique vocale et chorale qui a été annulé. Mais à l'Opéra de Dijon, les concerts vont reprendre dès la semaine prochaine. Laurent Joyeux est mon invité ce matin.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Bonjour Laurent Joyeux.
Bonjour.
Alors, vous organisez un festival artiste en résidence, donc 38 concerts en tout. À quel moment est-ce que cette idée de festival est née? Parce qu'il n'y a pas habituellement de festival à l'Opéra de Dijon à cette période de l'année.
Oui, alors tout à fait. Normalement, on termine notre saison avec le dernier ouvrage lyrique prévu et puis une série de concerts. Là, c'est vrai que ce festival est né en fait pendant la période de confinement où on était tous enfermés et où je continuais à échanger avec l'ensemble des artistes en résidence à l'Opéra et tous me faisaient ce même retour. Hein, que du coup c'était extrêmement difficile pour eux de ne pas pouvoir se produire devant un public, que c'était extrêmement pénible de voir tous ces trucs où chacun met son téléphone et se produit sur Facebook. Ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment on en a marre de la qualité médiocre, hein, du son qu'il peut y avoir, et puis c'est assez froid finalement de jouer devant son téléphone. Donc on a essayé d'imaginer une réponse possible à cette période de confinement en se disant voilà, comment on va pouvoir se retrouver, comment les artistes surtout vont pouvoir se retrouver et travailler dès qu'on va réouvrir. Et c'est là qu'est née l'idée de ce festival, en se disant qu'est-ce qu'une maison comme l'Opéra de Dijon, qui a des artistes en résidence, qui a un cœur permanent, peut proposer dans cette période-là pour aider justement ces artistes.
Alors concrètement, comment ça se passe? Ils viennent à l'Opéra de Dijon pour une captation?
Alors ils vont, l'avantage des résidences, c'est qu'ils connaissent bien le territoire et qu'ils connaissent bien la maison. Donc ils vont venir effectivement pour plusieurs jours pour proposer une série de concerts. Donc par exemple, Leonardo Garcia Larcón va être là pendant une petite semaine avec des musiciens de son ensemble et Mariana Flores. Les Dissonances, avec tout un tas d'artistes, vont être là aussi pendant une dizaine de jours. Et le but est de proposer au public un concert presque tous les soirs, en tout cas pendant ces périodes-là. Ça veut dire que concrètement, ils vont répéter le matin sur le plateau et l'après-midi et diffuser le concert le soir.
Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? Et est-ce que ce débat a eu lieu chez vous?
Oui, tout à fait. Ce débat a eu lieu chez nous. On a fait le choix de la gratuité. C'est-à-dire que pour nous, on fait le choix de dire, dans cette période exceptionnelle, ces concerts sont offerts gratuitement par les artistes qui sont rémunérés évidemment, mais vraiment un minimum. C'est l'idée de tous se serrer les coudes et de proposer quelque chose pour que ça redémarre, parce que je crois qu'on a tous besoin que ça redémarre enfin. Mmh. Voilà.
Est-ce que les contraintes sont pas trop lourdes? J'imagine techniquement, il faut aussi rassembler une équipe technique qui puisse capter. Il faut rassembler les musiciens avec toutes ces contraintes de distance, etc.
On va pas se cacher que c'est compliqué. Il y a énormément de règles qui changent d'ailleurs, hein, de jour en jour. Et puis on voit des études sortir en Allemagne, en Autriche, en Italie, qui viennent contredire ce que disent des rapports français. Je pense à la distanciation nécessaire entre deux instrumentistes. Je pense à toute la question des instruments avant. Là, on a fait le choix de limiter au maximum les risques. Donc il y a très peu d'instruments avant, par exemple, puisqu'on nous avait dit qu'ils étaient particulièrement dangereux. Maintenant, il semblerait qu'ils ne le soient pas. En tout cas, on va essayer, nous, de garantir le minimum de risque, hein, pour les artistes et pour les techniciens. Les techniciens sont habitués. Là, nous, on a déjà repris depuis 15 jours. On a démonté des décors. On a préparé un peu les choses, évidemment, pour ce festival qui commencera mercredi prochain. Mais Voilà, c'est compliqué parce que quand vous portez un élément de décor, respecter les distances, c'est compliqué, mais avec le port du masque et puis les fameux gestes barrières, on arrive quand même à faire fonctionner les choses. En tout cas, l'idée, ça n'est pas de s'empêcher de faire les choses au nom des contraintes sanitaires. C'est quelque chose de... Derrière, on peut s'abriter derrière la peur, on peut s'abriter derrière « oulala, c'est pas possible, oulala, c'est dangereux, oulala, il faut surtout pas faire ». Je crois qu'il faut avoir un point de vue le plus pragmatique possible, et évidemment tout en respectant les mesures de sécurité, mais voilà, quand on a un plateau, nous, qui fait une dimension extrêmement vaste, la salle est extrêmement vaste, franchement, mettre 15 personnes dans cette salle, ça a absolument rien de dangereux, surtout si les uns et les autres sont séparés par une certaine distance. Après, quand on voit parfois des musiciens harnachés, enfin protégés plutôt par des espèces de coques en plastique, j'avoue que je suis assez dubitatif sur l'intérêt de faire les choses. Voilà. Mais faire des concerts, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, même avec des chanteurs, même avec quelques instrumentistes avant. Faire de l'opéra à la rentrée, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille, qu'on ne sait pas encore faire. Donc on est en train d'y travailler, mais c'est vrai que ces contraintes, le plus tôt on aura des indications claires sur ce qui est possible de faire ou pas, le mieux ce sera pour évidemment redéployer, repenser nos saisons et encore une fois permettre le travail des artistes.
On vous le souhaite. Et France Musique sera là, d'ailleurs, sera bien présent de fin juin. Du 18 au 27 juin pour le mini-festival dans le festival autour des dissonances de David Grimal. Alors on va se quitter, Laurent Joyeux, par la Capella Mediterranea, évidemment, qui va ouvrir ce festival le 27 mai prochain. Merci à vous, Laurent Joyeux. Bonne journée et bonne suite.
Merci et bonne journée à vous. Merci.
Thank you.
Julie Roset et Mariana Flores, deux sopranos au service de ce madrigal à deux voix de Jacques Arcadelt. Jacques Arcadelt. Je vais y arriver. Datant de 1539. Voilà, nous sommes un gros demi-siècle avant la création de la première œuvre qui répondent au code de l'opéra. C'est l'Orfeo de Monteverdi et c'est l'objet de la chronique de Roselyne Bachelot ce matin.
Le reste, on est sur le plateau. Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Bonjour Roselyne Bachelot.
Bonjour Priscille.
Alors aujourd'hui, Roselyne, nous allons à la rencontre d'une œuvre mythique de l'opéra, une œuvre mythique, l'Orfeo de Monteverdi, qui serait le premier opéra, même si beaucoup ne sont pas d'accord avec ce qualificatif.
Ah oui, effectivement Priscille, il est de tradition de qualifier cette œuvre sublime de premier opéra de l'histoire de la musique. C'est évidemment oublier que le théâtre grec était chanté, que tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance, les spectacles religieux en particulier mélangeaient musique et représentation dramatique. Mais c'est bien à la toute fin du XVIe, début du XVIIe siècle que s'opère cette fusion intime qui, sous l'impulsion de la Camerata Fiorentina, a donné naissance à l'opéra tel que nous l'entendons encore aujourd'hui. Sur un plan strictement chronologique, les puristes estiment qu'il revient d'en donner la paternité à Jacopo Peri, compositeur en 1597 d'une Daphné qui n'est pas parvenue jusqu'à nous. Oh, finalement, peu importe ces prémices discrètes, on considère que le 24 février 1607, date de la première de l'Orfeo de Claudio Monteverdi sur un livret de Alessandro Studio, est bien le lever de rideau magique qui, sur la fanfare de la toccata que nous avons entendue en ouverture, sonne l'entrée de l'opéra dans l'histoire de la musique. D'ailleurs, dans le prologue, c'est la musica qui s'avance. Rôle chanté alors par un castra et par une soprane aujourd'hui, elle proclame que la musique attire les âmes des hommes vers les cieux. Et la fusion du théâtre et de la musique se déploie alors par des airs chantés ou déclamés, des danses, des chœurs. Pour illustrer ce propos, Monteverdi ne pouvait mieux choisir qu'Orphée. Nous connaissons tous le propos du livret, tant il a inspiré d'œuvres diverses. Orphée, celui qui par son chant et sa lyre va jusqu'à faire bouger les arbres et les rochers, épouse la belle Eurydice. Et on écoute Rosa del Ciel à l'acte 1, le chant d'Orphée lors de ses épousailles.
Circondi il tuo domini, dagli stellanti giri, dimmi, vedesti mai di me più lieto e fortunato amante? Fu ben felice il giorno mio ben che pria ti vidi. E più felice l'ora che per te sospirai, poiché al mio sospirar tu sospirasti. Felicissimo il punto che la candida mano
La belle meurt mordue par un serpent. Orphée, inconsolable, va la chercher au royaume des morts. Après moult épreuves, il obtiendra de Pluton qu'elle le suive vers la vie, mais à la condition expresse qu'il ne se retourne pas. Il ne pourra résister, la perdant alors définitivement. Si vous aimez l'histoire qui finisse bien, vous entendrez ce soir la version dans laquelle son père Apollon l'emporte au ciel, d'où il pourra contempler son épouse. Mais surtout, vous entendrez avec le samedi à l'opéra de Judith Chen la version donnée à Copenhague en mars dernier, avec dans le rôle titre un magnifique artiste, Marc Moyon. Certains seront étonnés de cette distribution puisque ce chanteur est généralement classé comme baryton alors qu'Orphée est tenu par un ténor. C'est bien cela qui fait la profonde originalité de ce chanteur hors norme, aussi à l'aise dans Armide, au Théâtre des Champs-Élysées, Alcyone à l'Opéra Comique, que dans le Guglielmo de Così fan tutte ou Roméo et Juliette de Pascal du Sapin, pour revenir ensuite à Guillaume de Machaut. Inclassable donc, et c'est bien en quoi il est totalement envoûtant. Si vous n'en étiez pas convaincu, écoutons pour conclure « Tu sei morta, mia vita, tu es morte, ma vie, et je respire encore. »
Rendez-vous donc ce soir avec Judith Chen pour un Orfeo de Monteverdi capté le 10 mars 2020 en l'Opéra Royal du Danemark de Copenhague. Grand merci à Antoine Giraud, Xavier Attou, Stéphane Poitvin, Adelino Mello, à la technique qui ont permis les enregistrements à distance des chroniques et de l'interview. Merci à David Travailleur à la réalisation, à Marie Ferdinand qui a coordonné les préparatifs de cette émission. On était tous un peu émus et fébriles de retrouver la maison de la radio et les studios en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée sur France Musique et un très bon week-end de l'Ascension.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.